6h45 sur France Culture.
Les enjeux internationaux. Thierry Garcin.
Bonjour Thierry.
Et bonjour Émilie.
Tout comme vendredi, nous restons donc en Europe et vous interrogez aujourd'hui la relation Paris-Berlin.
Voilà, par-delà les élections régionales en Allemagne, on va en dire un mot au début avec notre invité Stéphane Zeidendorf, qui est directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Et on va surtout voir l'importance de la relation Paris-Berlin, Berlin-Paris, dans une Europe sans projet. Alors, bonjour Stéphane Zeidendorf.
Oui, bonjour Thierry Garcin.
Alors, donc, vérité d'évidence, les relations franco-allemandes sont essentielles pour l'avenir de l'Europe. En plus, il va y avoir en 2017 une présidentielle et des législatives en France et puis des législatives en Allemagne, tour à tour. On va voir donc cette relation Berlin-Paris qui, on a l'impression d'ailleurs que Berlin semble depuis un certain nombre d'années sortir de l'enveloppe de l'Union européenne par un certain nombre de comportements ou de décisions ou de réactions ou de propositions. Juste quand même, ces deux élections régionales hier confirment au fond une tendance, on a l'impression, c'est-à-dire la montée de l'extrême droite et la réduction du parti de Madame Merkel, de la chancelière.
Oui, tout à fait. Et aussi la réduction des sociaux-démocrates. Il ne faut pas oublier que toutes ces élections, les sociaux-démocrates, ils les ont perdues aussi, même s'ils pouvaient garder en deux fois le ministre président régional, mais les deux grands partis qui ont fait l'après-guerre de l'Allemagne, ils sont en train de s'effondrer et on voit cette montée d'un parti d'extrême droite populiste qui fait son entrée dans les parlements régionaux pour la cinquième fois de suite maintenant.
Voilà, il faudra en parler un jour d'ailleurs ici même, c'est la fin apparente des grandes alternances en Europe. On peut parler évidemment du Royaume-Uni, on peut parler de la France, on peut parler de l'Espagne et ainsi de suite, ce qui est assez préoccupant d'une certaine façon, l'émiettement partisan. Alors, pour Paris, Berlin, Berlin, Paris, on est frappé quand même en première approche depuis quelques années par la montée des divergences. Est-ce que vous acceptez ce terme ?
Oui, certes, mais il faut aussi garder en tête que la France et l'Allemagne, ils étaient toujours très différents, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait l'Europe. Souvenez-vous, ça remonte dans le passé même, qu'il y avait tellement de divergences qu'il y avait des conflits armés entre la France et l'Allemagne. Ces deux pays qui sont structurellement très très différents, et l'Union européenne et la construction franco-allemande au sein de l'Union européenne, ils avaient justement permis de surmonter ces divergences et de trouver des compromis acceptables pour tout le monde. Ce qu'on voit davantage aujourd'hui, c'est peut-être une sorte de réalisme, qu'on est moins dans le symbolique, au moins les symboles ils sont moins convaincants qu'encore à l'époque de Kohl et de Mitterrand, et qu'on s'avoue plus franchement que les divergences, les différences d'intérêts sont là. En même temps, on voit très bien que les deux chefs de gouvernement, ils savent très bien qu'ils peuvent pas faire sans l'autre. Même si vous prenez le sommet de Bratislava de jeudi et vendredi encore, on a tout mis en œuvre pour montrer que au préalable il y a un accord franco-allemand et on a même mis en scène une conférence de presse conjointe commune à la fin pour ne plus donner cette version allemande et française différente de ce qui s'est passé au sommet. Ça c'est quelque chose qu'on a à ma façon rarement vu.
Alors, et en même temps, est-ce que ce n'est pas une sorte de posture de façade, cette prestation germano-française franco-allemande ? Et puis, il y a une question quand même pour l'avenir qui reste préoccupante, c'est si par exemple le Brexit est effectif, l'Allemagne et la France se retrouveront non seulement côte à côte comme grands pays, l'Italie ne compte pas malheureusement nos amis italiens dans les grands dossiers internationaux, et la France et l'Allemagne étaient contre le Brexit pour ne pas aussi se retrouver à la fois en vis-à-vis et en face-à-face sur de grands choix où les deux pays n'auront pas forcément la même vision. Et c'est un peu inquiétant pour l'avenir.
Oui, tout à fait. L'Allemagne, la classe politique, elle a beaucoup regretté la sortie des amis anglais du Brexit parce qu'il leur manque aussi un grand allié libéral sur l'économie, ouvert sur les États-Unis, sous-entendu ce qui n'est pas la France. Mais en même temps, les Français, ils ont regretté ce Brexit puisqu'il leur manque un allié militaire qui était très utile, très puissant et qui avait un peu une vision internationale aussi des affaires étrangères qui manque certainement à l'Allemagne. Et donc les deux regrettent en fin de compte pour différentes raisons et maintenant il faut voir comment ils vont se retrouver là-dessus. Ça change évidemment l'équilibre des pouvoirs. On a vu que récemment, Mme Merkel, elle avait invité M. Renzi, en plus de François Hollande, pour discuter de l'Europe après le Brexit à Berlin, ce qui était surprenant, qu'on a essayé de reconduire plusieurs fois cette alliance. Mais vous avez bien vu, à Bratislava, M. Renzi, il est pas venu à cette conférence de presse conjointe, un peu fâché, qu'il a dit qu'il ne couvre pas les compromis de façade, c'est pas ça qu'il faut. Donc là, vous n'avez justement pas une relation comme entre la France et l'Allemagne, où les dirigeants ne peuvent pas se passer de cette mise en scène, qu'on peut critiquer, qu'on peut questionner, mais visiblement, il y a quelque chose de plus profond qui les oblige à s'afficher, à afficher ce moteur franco-allemand. S'il n'y avait pas besoin de s'afficher uni entre Français et Allemands en Europe, ils ne le feront pas, je ne crois pas.
Alors, il y a des choses qu'on pouvait faire avec l'Allemagne et qu'on fait, notamment en matière d'intégration politique, qu'on ne peut pas faire par définition avec Londres. Et réciproquement, il y a des choses qu'on peut faire ensemble entre Londres et Paris et qu'on ne peut pas faire pour d'autres raisons avec l'Allemagne. Et si, encore une fois, le Brexit est acté, à ce moment-là, c'est une autre Europe. Et on est en train de tourner une page, tout le monde le sait, et personne ne veut le dire. C'est la fin on l'avait dit il y a quelques années, le projet de l'Union européenne est quand même un peu explosé, enfin c'est le fédéralisme plutôt qui a un peu explosé en vol.
Oui, on se pose ces questions, même dans les milieux fédéralistes qui étaient traditionnellement très forts en Allemagne, vous le savez, c'était un projet d'après-guerre. Maintenant, il faut voir comment on s'en sort, et ça explique en partie cette hésitation d'Angela Merkel de proposer ou d'essayer de trouver un projet d'après-Brexit. Vous avez vu que là encore, nous avons des divergences franco-allemandes. En France, on semble pousser vraiment pour cette idée d'une Europe à plusieurs vitesses, d'un noyau dur autour de la France et l'Allemagne, et bien évidemment, ce qui équilibrerait un peu la position de la France actuellement un peu défavorable pour la France. Et en Allemagne, Mme Merkel, elle veut tout faire pour garder l'Europe aussi unie que possible, c'est-à-dire, sous-entendu, pas des formes différenciées d'intégration, c'est-à-dire elle souhaite vraiment garder un bon, notamment les Européens de l'Est arrivés récemment.
Alors, juste peut-être une dernière question. On a l'impression que l'Allemagne, excusez-moi l'expression, on prend un peu à ses aises depuis un certain nombre d'années. Alors, il y a eu le traitement évidemment de la dette souveraine et en particulier à l'égard de la Grèce. Il y a eu le retour à la pollution, c'est-à-dire aux centrales à charbon. Il y a eu l'afflux des migrants tout à fait incessant, 1 100 000 dans l'année. Et puis, ce qui a des conséquences pan-européennes d'une certaine façon. Et il y a eu aussi la réouverture en 2016 des négociations sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, etc. Et ce n'est pas une critique, c'est un constat. L'Allemagne fait un peu ce qu'elle veut et elle profite, il faut le dire d'ailleurs, de la faiblesse de la France et de la division des autres Européens. Il faut tenir la balance égale, comme on dit.
Et ça commence à faire beaucoup, vous avez raison. L'Allemagne le fait tout simplement puisqu'elle peut le faire, elle peut se le permettre. Dans le passé, la situation était différente. C'était plutôt du côté de la France, notamment de l'Angleterre, parfois, qu'on a pu voir ces tentatives de faire cavalier seul. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui a cette capacité, mais en même temps, il ne faut pas oublier que nous sommes en Europe, nous restons en Europe. Il n'y a pas de vraie hégémonie d'un pays sur les autres, et les choses se rééquilibrent très vite. Si vous prenez la question des réfugiés, paradoxalement, puisque c'est notamment...
Juste d'un mot, parce qu'on arrive à la fin, on se retrouvera un autre jour. Oui.
Justement, c'est Angela Merkel qui les a fait venir, mais maintenant c'est l'Allemagne qui dépend aussi des autres Européens pour trouver des solutions. C'est des mécanismes de solidarité, donc en quelque sorte, ça rééquilibrer la relation entre Européens.
Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsbourg, et puis franceculture.fr pour écouter l'émission, la télécharger, et notamment écouter l'émission de vendredi dernier sur les questions européennes, vous l'aviez souligné, Émilie.
Merci à vous, Thierry Garcin, et demain, cap sur la Libye.
Oui, absolument. Cap sur la Libye avec la guerre civile et l'imbroglio politique. Notre invité sera Ali Ben Saad.